Chapitre 6 La fin de la tempête. Parmi tant de choses qui paraissent étranges dans une bataille, maintenant que j'y songe, il n'en est pas de plus singulière que la façon dont elle agit sur mes camarades. Pour quelques-uns, on eût dit qu'ils se livraient à leur repas journalier sans qu'ils eussent fait de questions, remarqué de changement. D'autres marmottèrent des prières depuis le premier coup de canon jusqu'à la fin. D'autres sacrèrent, lâchaient les jurons à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Il y en avait un, l'homme à ma gauche, Mike Fridingham, qui ne cessa de me parler de sa tante Sarah, une vieille fille, qui avait légué une maison pour les enfants des marins noyés, tout l'argent qu'elle lui avait promis. Il me dit cette histoire et la recommença. Puis, la bataille finie, il jura ses grands dieux qu'il n'avait pas ouvert la bouche de tout le jour. Quant à moi, je ne saurais dire si je parlais ou non, mais je sais que j'avais l'intelligence et la mémoire plus claires que je ne l'ai jamais eue, et que je pensais tout le temps aux vieux parents laissés à la maison, à la cousine Eddie, à ses yeux fripons et mobiles, à Delissac et ses moustaches de chat, à toutes les aventures de West Inch qui avaient fini par nous conduire dans les plaines de Belgique, servir de cible à 250 canons. Pendant tout ce temps, le grondement de ces canons avait été terrible à entendre, mais ils se turent soudain. Oh, ce n'était cependant pas que le calme momentané au cours d'une tempête. Alors on devine que presque immédiatement il va être suivi d'un pire déchaînement de l'orage. Il y avait encore un bruit très fort vers l'aile la plus éloignée, où les Prussiens se frayaient passage en avant, mais c'était à 2000 de là. Les autres batteries, tant françaises qu'anglaises, se turent. La fumée s'éclaircit de façon que les deux armées purent se voir un peu. Notre Crète offrait un spectacle terrible. On eût dit qu'il restait à peine quelques parcelles de rouge et des lignes vertes à l'endroit où avait été la Légion allemande, tandis que les masses françaises semblaient aussi denses qu'avant. Nous savions pourtant qu'ils avaient dû perdre plusieurs milliers d'hommes dans ces attaques. Nous entendîmes de grands cris de joie partir de leur côté. Puis tout à coup, leurs batteries recouvrirent le feu avec un vacarme tel que celui qui venait de finir n'était rien en comparaison. Il devait être deux fois aussi fort, car chaque batterie était deux fois plus rapprochée. Elles avaient été déplacées, de façon à tirer presque à bout portant d'énormes masses de cavalerie disposées dans leurs intervalles pour les défendre contre toute attaque. Quand ce tapage infernal arriva à nos oreilles, il n'y eut pas un homme jusqu'au petit tambour qui ne comprit ce que cela signifiait. C'était le dernier et suprême effort que faisait Napoléon pour nous écraser. Il ne restait plus que 2 heures de jour, et si nous pouvions tenir ce temps-là, tout irait bien. Épuisés par la faim, la fatigue, accablés, nous faisions des prières pour obtenir la force de charger nos armes, de sabrer, de tirer, tant qu'un de nous resterait debout. Maintenant, la canonnade ne pouvait plus nous faire grand mal, car nous étions couchés à plat ventre, et nous pouvions en un instant nous dresser en une masse hérissée de baïonnettes, si la cavalerie fondait de nouveau sur nous. Mais derrière le tonnerre des canons s'entendait un bruit plus clair, plus aigre, un bruit de froissement, de frottement, le plus farouche, le plus saccadé, le plus entraînant des bruits. « Oh, c'est le pas de charge !» cria un officier. « Cette fois, ils veulent en finir !» Et comme il parlait encore, nous vîmes une chose étrange. un Français, portant l'uniforme d'officier de hussard, s'avança au galop vers nous sur un petit cheval bai. Il criait à tue-tête « Vive le roi! Vive le roi !» Autant dire que c'était un déserteur puisque nous étions du côté du roi et que soutenait l'empereur. En passant près de nous, il nous cria en anglais « La garde arrive! La garde arrive !» Puis il disparut vers l'arrière comme une feuille emportée par l'orage. Au même moment, un aide-de-camp accourut avec la figure la plus rouge que j'ai jamais vue sur le corps d'un homme. « Il faut que vous les arrêtiez, ou bien nous sommes battus » cria-t-il au général Adams, si fort que toute notre compagnie put l'entendre. « Comment cela marche-t-il » demanda le général. « Deux petits escadrons, c'est tout ce qui reste de 6 régiments de grosse cavalerie, » dit-il. Et il se mit à rire de l'air d'un homme dont les nerfs ont été trop tendus. « Peut-être voudrez-vous nous joindre à votre marche en avant. Je vous en prie, regardez-vous comme un des nôtres, » dit le général, en s'inclinant et souriant, comme s'il lui offrait une tasse de thé. « Ce sera avec le plus grand plaisir, » dit l'autre en ôtant son chapeau. Un moment après, nos 3 régiments se resserrèrent. La brigade avança sur 4 lignes, franchit le creux où nous étions restés couchés en formant les carrés, et alla au-delà du point d'où nous avions vu l'armée française. Il n'était pas possible de voir beaucoup de choses à ce moment. On ne distinguait guère que la flamme rouge, jaillissant de la gueule des canons à travers le nuage de fumée, et les silhouettes noires se baissant, tirant, écouvillonnant, chargeant, actifs comme des diables, et toutes à leur œuvre diabolique. Mais à travers ce tapage et ce bourdonnement montait de plus en plus fort le bruit de milliers de pieds en marche mêlés à de grandes clameurs. Puis on entrevit, à travers le brouillard, une vague mais large ligne noire, qui prit une teinte plus foncée, un dessin plus net, si bien qu'enfin nous vîmes que c'était une colonne sur 100 hommes de front qui se dirigeait rapidement sur nous, coiffée de hauts bonnets à poils avec un éclat de plaques de cuivre au-dessus du front. Et derrière ces hommes, ces 100 hommes, il y en avait 100 autres et ainsi de suite. Cela se déroulait, se tordait, sortait de la fumée des canons. On eût dit un serpent monstrueux, et cette immense colonne paraissait interminable. En avant venaient de çà et là des tirailleurs, derrière ceux-ci les tambours, et tout cela s'avançait d'un pas élastique, les officiers formant des groupes serrés sur les flancs, l'épée à la main et criant des encouragements. Il y avait aussi en tête une douzaine de cavaliers qui criaient tous ensemble, l'un d'eux portait son shako au bout de son épée qu'il tenait droite. Je le dis encore, jamais mortel ne combattit aussi vaillamment que le firent les Français ce jour-là. C'était merveilleux de les voir, car à mesure qu'ils s'avançaient, ils se trouvèrent en avant de leurs propres canons, de sorte qu'ils n'eurent plus à compter sur cette aide, quoiqu'ils allassent tout droit à 2 batteries que nous avions eues à nos côtés pendant tout le jour. Chaque canon avait réglé son tir à un pied près, et nous vîmes de longues files rouges se dessiner dans la noire colonne à mesure qu'elle progressait. Les Français étaient si près de nous et si serrés les uns contre les autres que chaque coup en emportait des dizaines, mais ils se serraient davantage et marchaient avec un élan, un entrain qui était des plus beaux à voir. Leur tête était tournée tout droit vers nous, tandis que le 95e débordait d'un côté et le 52e de l'autre côté. Je croirais toujours que si nous étions restés à l'attendre, la garde nous aurait enfoncés, car comment arrêter une telle colonne avec une ligne de 4 hommes d'épaisseur? Mais à ce moment-là, Colburn, le colonel du 52e, reploya son flanc gauche de manière à le placer parallèlement à la colonne, ce qui contraignit les Français à s'arrêter. Leur ligne de front était à une 40aine de pas de nous, et nous pûmes les voir à notre aise. Il m'a toujours paru plaisant de me rappeler que je m'étais toujours figuré les Français comme des hommes de petite taille. Or, il n'y en avait pas un seul dans cette première compagnie qui ne fût capable de me ramasser comme si j'étais un gamin, et leur haut bonnet à poils les faisait paraître plus grands encore. C'étaient des gaillards endurcis, tannés, nerveux, aux yeux farouches et bridés, aux moustaches hérissées, ces vieux soldats qui n'avaient jamais passé une semaine sans se battre, et pendant bien des années. Et alors, comme je me tenais prêt, le doigt sur la détente, attendant le commandement de feu, mon regard tomba en plein sur l'officier monté qui portait son chapeau au bout de son épée. Je le reconnus, c'était Bonaventure de Lissac. Je le vis, Jim le vit aussi. J'entendis un grand cri et je vis Jim courir comme un fou sur la colonne française. Aussi prompte que la pensée, et la brigade entière suivit cette impulsion, les officiers comme les soldats, et se jeta sur le front de la garde pendant que nos camarades l'assaillaient par les flancs. Nous avions attendu l'ordre, mais tout le monde crut qu'il avait été donné. Cependant, vous pouvez me croire sur parole, ce fut en réalité Jim Oscroff qui mena cette charge faite par la brigade sur la vieille garde. Dieu sait ce qui se passa pendant ces 5 premières minutes de rage. Je me rappelle que je mis mon fusil sur un uniforme bleu, que j'appuyai sur la détente et que l'homme ne tomba pas parce qu'il était porté par la foule. Mais je vis sur l'étoffe une tache horrible et un léger tourbillon de fumée comme si elle avait pris feu. Puis je me trouvais rejeté entre 2 gros Français et si serré entre eux qu'il nous était impossible de mouvoir une arme. L'un d'eux, un gaillard à grand nez, me saisit à la gorge et je me sentis comme un poulet dans sa poigne. « Rendez-vous coquin !» dit-il. Mais tout à coup, il se ploya en deux en jetant un cri, car quelqu'un venait de lui plonger une baïonnette dans le ventre. On tira très peu de coups de feu après le premier abordage. On n'entendait plus que le choc des crosses contre les canons, les cris brefs des hommes atteints et les commandements des officiers. Alors, tout à coup, les Français commencèrent à céder le terrain, lentement, de mauvaise grâce, pas à pas, mais enfin, ils reculaient. Ah, il valait bien tout ce que nous avions souffert jusque-là, le frisson qui nous parcourut le corps, quand nous comprîmes qu'ils allaient plier. J'avais devant moi un Français, un homme aux traits tranchants, aux yeux noirs, qui chargeait, qui tirait, comme s'il avait été à l'exercice. Il visait avec soin et regardait d'abord autour de lui pour choisir et abattre un officier. Je me rappelle qu'il me vint à l'esprit que ce serait faire un bel exploit que de tuer un homme qui montrait un tel sang-froid. Je me précipitai vers lui et lui passai ma baïonnette au travers du corps. En recevant ce coup, il fit demi-tour et me lâcha un coup de fusil en pleine figure. La balle me fit à travers la joue une marque qui me restera jusqu'à mon dernier jour. Quand il tomba, je trébuchais par-dessus son corps. Deux autres hommes tombèrent à leur tour sur moi, et je faillis être étouffé sous cet entassement. Lorsqu'enfin je fus dégagé, après m'être frotté les yeux qui étaient pleins de poudre, je vis que la colonne était définitivement rompue, qu'elle se disloquait en groupe, les uns fuyant à toutes jambes, les autres continuant à combattre dos à dos, dans un vain effort pour arrêter la brigade qui balayait tout devant elle. Il me semblait qu'un fer rouge était appliqué sur ma figure, mais j'avais l'usage de mes membres. Aussi, j'enjambais d'un bond un amas de cadavres ou d'hommes mutilés, je courus après mon régiment et allais prendre ma place au franc droit. Le vieux major Elliot était là, boitant un peu car son cheval avait été tué, mais lui, il ne s'en trouvait pas plus mal. Il me fit venir, me fit un signe de tête, mais on avait trop de besogne pour avoir le temps de causer. La brigade avançait toujours, mais le général passa à cheval devant moi, baissant la tête et regardant les positions anglaises. « Il n'y a pas de terrain gagné, dit-il, mais je ne recule pas. » Le duc de Wellington a remporté une grande victoire, proclama l'aide-de-camp d'une voix solennelle. Et alors, cédant soudain à ses sentiments, il ajouta, « Si ce maudit animal voulait seulement se lancer en avant !» Ce qui fit rire tous les hommes de la compagnie de flanc. Mais à ce moment-là, le premier venu pouvait se rendre compte que l'armée française se disloquait. Les colonnes et les escadrons, qui avaient tenu bon si carrément pendant tout le jour, offraient maintenant des vides sur les bords. Au lieu d'avoir en avant une forte ligne de tirailleurs, elles avaient à l'arrière un éparpillement de traînards. La garde s'éclaircissait devant nous à mesure que nous poussions en avant, et nous nous trouvâmes face à face avec 12 canons, mais au bout d'un moment, ils furent à nous, et je vis notre plus jeune sous-officier, après celui qui avait été tué par le lancier, griffonné à la craie sur l'un d'eux, en gros chiffres, le numéro 72, en vrai écolier qu'il était. Ce fut alors que nous entendîmes derrière nous un hurrah d'encouragement et que nous vîmes l'armée anglaise, tout entière, déborder par-dessus la crête des hauteurs et se répandre dans la vallée pour fondre sur ce qui restait de l'ennemi. Les canons arrivèrent aussi en bondissant à grand bruit et notre cavalerie légère, enfin le peu qui en restait, rivalisa sur la droite avec notre brigade. Après cela, il n'y avait plus de bataille. L'on marcha en avant sans rencontrer de résistance, et notre armée finit de se former en ligne sur le terrain même que les Français occupaient le matin. Leurs canons étaient à nous. Leur infanterie réduite à une cohue qui s'éparpillait par tout le pays. Leur brave cavalerie se montra seule capable de conserver un peu d'ordre et de quitter le champ de bataille sans se rompre. Enfin, au moment même où la nuit venait, nos hommes, épuisés et affamés, purent mettre la besogne aux Prussiens et former les faisceaux sur le terrain qu'ils avaient conquis. Voilà tout ce que je vis et tout ce que je puis dire sur la bataille de Waterloo. J'ajouterai seulement que j'avalai le soir une galette d'avoine de 2 livres pour mon souper et une bonne cruche de vin rouge. Il me fallut donc percer un autre trou à mon ceinturon qui me serra alors comme un cercle autour d'un baril. Après cela, je me couchais dans la paille où se vautrait le reste de la compagnie. Moins d'une minute après, je m'endormais d'un sommeil de plomb. Le règlement de compte de la mort. Le jour pointait et les premières lueurs grises venaient de se montrer furtivement à travers les longues et minces fentes des murs de notre grange, lorsqu'on me secoua forcément par l'épaule. Je me levai d'un bond. Dans mon cerveau hébété par le sommeil, je m'étais figuré que les cuirassiers arrivaient sur nous et j'empoignais une hallebarde posée contre le mur, mais en voyant les longues files de dormeurs, je me rappelais où j'étais. Mais je puis vous dire que je fus bien étonné en m'apercevant que c'était le major Elliott lui-même qui m'avait réveillé. Il avait l'air très grave. Et derrière lui venaient 2 sergents tenant de longues bandes de papier et un crayon. Réveillez-vous, mon garçon, dit le major, retrouvant sa bonhomie comme si nous étions de nouveau à Corrymuir. Oui, major, balbutiai-je. Je vous prie de venir avec moi. Je sens que je vous dois quelque chose à tous deux. Car c'est moi qui vous ai fait quitter vos foyers. Jim Hobscroft est manquant. Je sursautai à ces mots, car avec cette attaque furieuse et la faim et la fatigue, j'avais complètement oublié mon ami depuis qu'il s'était élancé contre la garde française en entraînant tout le régiment. Je suis en train de faire le relevé de nos pertes, dit le major, et. Si vous vouliez bien venir avec moi, vous me feriez grand plaisir. Nous voilà donc en route, le major, les 2 sergents et moi. Oh, certes, c'était un terrible spectacle, si terrible que malgré le nombre d'années qui se sont écoulées, je préfère en parler le moins possible. C'était bien horrible à voir dans la chaleur du combat, mais maintenant dans l'air froid du matin, alors qu'on n'a pas le tambour ni le clairon pour vous exciter, tout ce qu'il y a de plus glorieux a disparu. Il ne reste plus qu'une vaste boutique de bouchers où de pauvres diables ont été éventrés, écrasés, mis en bouillie, où l'on dirait que l'homme a voulu tourner en dérision l'œuvre de Dieu. L'on pouvait lire sur le sol chaque phase du combat de la veille. Les fantassins morts formant encore des carrés, la ligne confuse de cavaliers qui les avaient chargés, et en haut, sur la pente, les artilleurs gisant autour de leurs pièces brisées. La colonne de la garde avait laissé une bande de morts à travers la campagne. On eût dit la trace laissée par une limace. En tête se dressait un amas de morts en uniforme bleu, entassés sur des habits rouges, à l'endroit où avait eu lieu cette étreinte furieuse lorsqu'ils avaient fait le premier pas en arrière. Et ce que je vis tout d'abord en arrivant à cet endroit, ce fut Jim lui-même. Il gisait, de tout son long étendu sur le dos, la figure tournée vers le ciel. On eût dit que toute passion, toute souffrance s'était évaporée. Il ressemblait tout à fait à ce Jim d'autrefois, que j'avais vu 100 fois dans sa couchette quand nous étions camarades d'école. J'avais jeté un cri de douleur en le voyant. Mais quand j'en vins à considérer son visage et que je lui trouvais l'air bien plus heureux dans la mort que je n'avais jamais espéré de le voir pendant sa vie, je cessai de me désoler sur lui. Deux baïonnettes françaises lui avaient traversé la poitrine. Il était mort sur le champ, sans souffrir, à en croire le sourire qu'il avait sur les lèvres. Le major et moi, nous lui soulevions la tête, espérant qu'il restait peut-être un souffle de vie, quand j'entendis près de moi une voix bien connue. C'était de Lissac, dressé sur son coude, au milieu d'un tas de cadavres de soldats de la garde. Il avait un grand manteau bleu autour du corps. Son chapeau à grands plumets rouges gisait à terre près de lui. Il était bien pâle. Il avait de grands cercles bistrés sous les yeux, mais à cela près, il était resté tel qu'il était jadis, avec son grand nez tranchant, d'oiseau de proie affamé, sa moustache raide, sa chevelure coupée ras et clairsemée jusqu'à la calvitie au haut de la tête. Il avait toujours eu les paupières tombantes, mais maintenant, il était presque impossible de retrouver par-dessous le scintillement de l'œil. « Oh là, Jack ! » s'écria-t-il. « Je ne m'attendais guère à vous voir ici, et pourtant, j'aurais pu m'en douter quand j'ai vu l'ami Jim. » « C'est vous qui nous avez apporté tous ces ennuis, dis-je. « Ta, ta, ta !» s'écria-t-il avec son impatience de jadis. « Tout est arrangé pour nous à l'avance. Quand j'étais en Espagne, j'ai appris à croire au destin. C'est le destin qui vous a envoyé ici ce matin. C'est sur vous que retombera le sang de cet homme, dis-je, en posant la main sur l'épaule du pauvre Jim. Mais bon sang sur lui, dit-il. Ah si, nous sommes quittes. Il ouvrit alors son manteau et j'aperçus avec horreur un gros caillot noir de sang qui sortait de son flanc. Ben, « C'est ma 13e blessure et ma dernière, » dit-il avec un sourire. « On dit que le nombre 13 porte malheur. Pourriez-vous me donner à boire si vous disposez de quelques gouttes ?» Le major avait du brandy étendu d'eau. De Lissac en but avidement. Ses yeux se ranimèrent et une petite tache rouge reparut à ses joues livides. « C'est Jim qui a fait cela, dit-il. J'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom et aussitôt son fusil se posait sur ma tunique. Deux de mes hommes l'ont écharpé au moment même où il a fait feu. Eddie valait bien cela. Vous serez à Paris dans moins d'un mois, Jack, et vous la verrez. Vous la trouverez au numéro 11 de la rue du Miroménil, qui est près de la Madeleine. Annoncez-lui la nouvelle, avec ménagement, Jack, car vous ne pouvez pas vous figurer à quel point elle m'aimait. Dites-lui que tout ce que je possède se trouve dans les deux malles noires et qu'Antoine en a les clés. Vous n'oublierez pas. Je me souviendrai. Et madame, votre mère, j'espère que vous l'avez laissée en bonne santé. Et monsieur, votre père aussi, présentez-lui mes plus grands respects. À ce moment même où il allait mourir, il fit la révérence d'autrefois et son geste de la main en adressant ses salutations à ma mère. Assurément, lui-je dis-je, votre blessure pourrait être moins grave que vous ne le croyez. Je pourrais vous amener le chirurgien de notre régiment. Oh, mon cher George, je n'ai pas passé ces 15 ans à faire et à recevoir des blessures sans savoir reconnaître celle qui compte. Ben, il vaut mieux qu'il en soit ainsi, car je sais que tout est fini pour mon petit homme. J'aime mieux m'en aller avec mes voltigeurs que de rester pour vivre en exilé et en mendiant. En outre, il est absolument certain que les alliés m'auraient fusillé. Ainsi, je me suis épargné une humiliation. Les alliés, monsieur, dit le major avec une certaine chaleur, ne se rendraient jamais coupables d'un acte aussi barbare. Vous n'en savez rien, major, dit-il. Supposez-vous donc que j'aurais fui en Écosse et changé de nom si je n'avais eu rien de plus à craindre que mes camarades restés à Paris? Je tenais à la vie, car je savais que mon petit homme reviendrait. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mourir, car il ne se trouvera plus jamais à la tête d'une armée. Mais j'ai fait des choses qui ne peuvent pas se pardonner. C'est moi qui commandais le détachement qui a fusillé le duc d'Enghien. C'est moi qui... Oh, mon Dieu! Eddie, ma chérie! Il leva les deux mains dont les doigts s'agitèrent et tremblèrent comme s'ils tâtonnaient. Puis il les laissa retomber lourdement devant lui et sa tête se pencha sur sa poitrine. Un de nos sergents le recoucha doucement. L'autre étendit sur lui le grand manteau bleu. Nous laissâmes ainsi là ces deux hommes que le destin avait si étrangement mis en rapport. L'Écossais et le Français gisaient silencieux, paisibles, si rapprochés que la main de l'un eût pu toucher celle de l'autre sur cette pente imbibée de sang dans le voisinage de Hougoumont. Comment tout cela finit? Maintenant, me voici bien près de la fin de tout cela, et je suis fort content d'y être arrivé, car j'ai commencé ce récit d'autrefois, le cœur léger, en me disant que cela me donnerait quelque occupation pendant les longs soirs d'été. Mais, chemin faisant, j'ai réveillé 1000 peines qui dormaient, 1000 chagrins à demi oubliés, si bien que j'ai à présent l'âme à vif comme la peau d'un mouton mal tondu. Si je m'en tire à bon port, je jure bien de ne jamais reprendre la plume, car en commençant, cela va tout seul, comme quand on descend dans un ruisseau dont la rive est en pente douce. Puis, avant que vous puissiez vous en apercevoir, vous mettez le pied dans un trou et vous y restez. Et c'est à vous de vous en tirer à force de vous débattre. Nous enterrâmes Jim et Delissac avec 431 soldats de la garde impériale et de notre infanterie légère, rangés dans la même tranchée. Ah, si on pouvait semer un homme brave comme on sème une graine, quelle belle récolte de héros on ferait un jour. Alors nous laissâmes pour toujours derrière nous ce champ de carnage et nous prîmes avec notre brigade la route de la frontière pour marcher sur Paris. Pendant toutes ces années-là, on m'avait toujours habitué à regarder les Français comme de très méchantes gens et comme nous n'entendions parler d'eux qu'à l'occasion de batailles, de massacres sur terre et sur mer, il était assez naturel pour moi de les croire vicieux par essence et de compagnies dangereuses. Après tout, n'avaient-ils pas entendu dire de nous la même chose, ce qui devait certainement nous faire juger par eux de la même manière. Mais quand nous eûmes à traverser leur pays, quand nous vîmes leurs charmantes petites fermes et les bonnes gens si tranquillement occupés du travail des champs et les femmes tricotant au bord de la route, la vieille grand-maman, en vaste coiffe blanche, grondant le bébé pour lui apprendre la politesse. Tout nous parut si empreint de simplicité domestique que j'en vins à ne pouvoir comprendre pourquoi nous avions si longtemps haï et redouté ces bonnes gens. Je suppose que, dans le fond, l'objet réel de notre haine, c'était l'homme qui les gouvernait. Et maintenant qu'il était parti et que sa grande ombre avait disparu du pays, tout allait reprendre sa beauté. Nous fîmes assez joyeusement le trajet en parcourant le pays le plus charmant que j'eusse jamais vu, et nous arrivâmes ainsi à la grande cité. Nous nous attendions à y livrer bataille, car elle est si peuplée qu'en prenant seulement un homme sur 20, on formerait une belle armée. Mais cette fois, on avait reconnu combien c'est dommage d'abîmer tout un pays à cause d'un seul homme. On lui avait donc donné avis qu'il eût à se tirer d'affaire seul désormais. D'après les dernières nouvelles qui nous arrivèrent sur lui, il s'était rendu aux Anglais. Les portes de Paris nous étaient ouvertes. C'était des nouvelles excellentes pour moi, car j'aimais autant m'en tenir à la seule bataille où je me fusse trouvé. Mais il y avait alors à Paris une foule de gens attachés à Bonnet. C'était tout naturel quand on songe à la gloire qu'il leur avait acquise et qu'on se rappelle qu'il n'avait jamais demandé à son armée d'aller dans un endroit où il n'alla pas lui-même. Ils nous firent assez mauvaise mine à notre entrée, je puis vous le dire. Nous autres, de la brigade d'Adams, nous fûmes les premiers qui mirent le pied dans la ville. Nous passâmes sur un pont qui s'appelle Neuilly, mot plus facile à écrire qu'à prononcer. De là, on traversa un beau parc, le bois de Boulogne, puis on alla aux Champs-Élysées où l'on bivouaqua. Bientôt, il y eut dans les rues tant de Prussiens et d'Anglais qu'on se serait cru dans un camp plutôt que dans une ville. La première fois que je pus sortir, je partis avec Rob Stewart de ma compagnie, car on ne nous permettait de circuler que par couple, et je me rendis dans la rue de Miromesnil. Rob attendit dans le vestibule, et dès que je mis le pied sur le paillasson, je me trouvai en présence de ma cousine Eddie, qui était toujours restée la même et qui se mit à me contempler de ce regard sauvage qu'elle a. Pendant un moment, elle ne me reconnut pas, mais quand elle le fit, elle s'avança de 3 pas, courut à moi et me sauta au cou. « Oh, mon vieux, cher vieux Jack !» s'écria-t-elle. « Comme vous êtes beau sous l'habit rouge !»« Oui, à présent, je suis soldat, Eddie, » répondis-je d'un ton fort raide, car en voyant sa jolie figure, je crus apercevoir par derrière elle l'autre figure qui était tournée vers le ciel sur le champ de bataille de Belgique. « Qui l'aurait cru ? » s'écria-t-elle. « Qu'êtes-vous alors, Jacques ? Général ? Capitaine ? Non, non, je suis simple soldat. Comment, vous n'êtes pas, je l'espère, de ce genre du commun qui porte le fusil ? Si, je porte le fusil. Oh, ce n'est pas beaucoup près aussi intéressant, » dit-elle en retournant s'asseoir sur le canapé qu'elle avait quitté. C'était une chambre superbe, toute tendue de soie et de velours, pleine d'objets brillants, et j'étais sur le point de repartir pour donner à mes bottes un nouveau coup de brosse. Quand Eddie s'assit, je vis qu'elle était en grand deuil. Cela me prouva qu'elle connaissait la mort de Lissac. Bon, « Je suis content de voir que vous savez tout, » lui dis-je, « car je suis très maladroit pour annoncer avec ménagement les nouvelles. Il a dit que vous pouviez garder tout ce qu'il y avait dans les malles et qu'Antoine avait les clés. « Merci, Jack, merci, » dit-elle. « Vous avez été bien bon de faire cette commission. Mais après l'événement, il y a environ 8 jours, oh, j'en ai été folle quelque temps, tout à fait folle. Je porterai le deuil toute ma vie, quoique cela fasse de moi un véritable épouvantail, comme vous le voyez. Oh, je ne m'en remettrai jamais. Oh, je prendrai le voile et je mourrai au couvent. » « Pardon, madame, » dit une domestique en avançant la tête, Le comte de Belton désire vous voir. Ah, mon cher Jacques, dit Eddy en se levant brusquement, voilà qui est très important. Je suis bien fâché d'abréger notre entretien, mais vous reviendrez me voir, j'en suis sûr. N'est-ce pas? Je suis si désolé. Ah, est-ce qu'il vous serait égal de sortir par la porte de service et non par la grande porte? Oh, je vous remercie, mon cher vieux Jacques. Vous avez toujours été si bon garçon et vous faisiez exactement ce qu'on vous disait de faire. C'était la dernière fois que je devais voir la cousine Eddy. Elle se montrait à la lumière du soleil avec son regard provocateur de jadis, avec ses dents éclatantes. Aussi, je me la rappellerai toujours, brillante et mobile comme une goutte de mercure. Lorsque je rejoignis mon camarade en bas dans la rue, je vis à la porte une belle voiture à deux chevaux. Je devinai alors qu'elle m'avait prié de m'esquiver furtivement pour que ses nouveaux amis du grand monde ne vissent jamais les gens du commun avec lesquels elle avait vécu dans son enfance. Elle n'avait fait aucune question sur Jim, ni sur mon père et ma mère, qui avaient eu tant de bonté pour elle. Bah, elle était ainsi faite, elle ne pouvait pas plus s'en dispenser qu'un lapin ne peut s'empêcher d'agiter son bout de queue. Et pourtant, cette pensée me fit grand-peine. 9 mois après, j'appris qu'elle avait épousé ce même comte de Bethune et elle mourut en couche un an ou 2 ans plus tard. Quant à nous, notre tâche était accomplie. La grande ombre avait été chassée de dessus l'Europe. Elle ne viendrait plus s'allonger d'un bout à l'autre du pays, planant sur les fermes paisibles, les humbles villages, faisant les ténèbres dans des existences qui auraient été si heureuses. Après avoir acheté ma libération, je revins à Cormyr, où, après la mort de mon père, je pris la ferme. J'épousai Lucidine de Berwick, et j'élevai 7 enfants qui tous sont plus grands que leur père et n'omettent rien pour le lui rappeler. Mais dans les jours tranquilles et paisibles qui s'écoulent désormais et qui se ressemblent comme autant de béliers écossais, j'ai peine à convaincre mes jeunes gens que, même ici, nous avons eu notre roman, au temps où Jim et moi nous fîmes notre cour, et où l'homme aux moustaches de chat arriva de l'autre côté de l'eau.